Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et quel public fidèle à l'Opéra National de Lorraine pour un masque et la plume à l'occasion de cette 43e édition du Livre sur la Place présidée virtuellement par Enki Bilal. Autour de moi, Olivia de Lamberterie de Elle, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, Jean-Claude Raspien-Jas de La Croix et Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard. Arnaud qui va publier le 17 septembre Cantique de la critique aux éditions La Fabrique. J'ai essayé, écris-tu, d'écrire un livre marrant, dansant sur la critique littéraire. Eh bien, c'est réussi. J'en extrais d'ailleurs cette phrase qui pourrait être la devise du masque et la plume: la critique est la langue de la démocratie libérale, tandis que la propagande est celle des dictatures. Et ce soir, la critique se penche sur les romans de Tanguy Viel, de Kazuo Ishiguro, de David Diop, de Maria Pourchet, et sur les insomnies, il faut dire assez effrayantes, de Marie Darrieussecq. Dans le courrier de la semaine, Caroline Maury de Bordeaux reproche à Frédéric Becbédé d'avoir dit avec mépris il y a 15 jours au masque et la plume que Philippe Génada faisait du Pierre Bellemare, et notre auditrice aime beaucoup Bellemare. Le fait divers est un genre dont Pierre Bellemare est le maître, et c'est un compliment involontaire que Becbédé a fait à Génada. Valérie Abécassis, qui nous écoute de Tel Aviv et nous remercie de l'entraîner dans les librairies et les cinémas français, avec mention spéciale, je ne comprends pas pourquoi, à Becbédé, érudit poli qui dit exactement ce que je pense, me fait remarquer à juste titre qu'Amélie Nothomb n'est pas la première à avoir écrit à la première personne pour son père. L'écrivain Pierre Pachet l'avait fait dans la merveilleuse autobiographie de mon père en 1987. Et à propos de premier sang d'Amélie Nothomb, François Ménian de Londres nous écrit: j'ai dévoré le roman d'Amélie Nothomb que j'ai trouvé, comme vous, drôle, émouvant, nostalgique, parfois terrifiant. Ce livre, à mon sens, confirme le statut d'auteur d'exception d'Amélie Nothomb. Et je voulais, ajoute cet auditeur londonien, souligner les deux recommandations remarquables d'Arnaud Vivian: Mon mari, le roman absolument hilarant de Maud Ventura, c'est à l'Iconoclaste, et je partage ton sentiment, Arnaud, et l'essai fascinant, nous dit cet auditeur, des Étoiles nouvelles de William Marx.
Ah oui, magnifique.
Que tu avais conseillé chez Minuit. Merci pour vos recommandations. Tandis que Pascal Gervas de Genève remercie Frédéric, cette fois, d'avoir conseillé Le Voyant des Tempes d'un jeune auteur inconnu, publié à l'Observatoire. On obtempère, nous dit Pascal Gervas, et on découvre au miracle un écrivain qui ose prendre le large en accomplissant une chose inouïe, inventer un personnage moderne. On remercie donc Abel Quentin de ne pas avoir peur de l'inconnu, de nous renseigner sur les mots de notre époque et de croire encore aux vertus de la fiction. Donc tu as été entendu sur cet auteur qui s'est d'ailleurs retrouvé dans la liste de plusieurs prix. Hein,
Goncourt, Renaudot, Fémina et Flore.
L'important, c'est le Flore, c'est ça, hein?
Bien sûr.
Et selon un rituel bien établi, vous savez que les académiciens Goncourt sont tous à Nancy, à chaque livre sur la place, et qui font ce voyage. Eh bien, moi, je vous propose, selon un autre rituel, toujours dans cet Opéra National de Lorraine, de me dire quel roman serait pour vous le prix Goncourt idéal pour 2021. On va commencer avec Olivia.
Alors, je vais répondre doublement.
Comment ça, doublement?
Même, ça va être plus compliqué que ça. Je pense que celui qui aura le Goncourt cette année, là je me mouille, ce pourrait être Tanguy Viel.
Dont on va parler ce soir.
Que j'aime beaucoup, mais sur la liste, cette année, j'ai pas compté combien il y avait de femmes l'année dernière, mais en tous les cas, cette année, il y en a 7. Donc on est presque à la parité, donc je dis bravo les jurés Goncourt. Et il y a 4 femmes absolument géniales sur cette liste. Maria Pourchet.
On en parle ce soir.
Agnès de Sarthe, Clara Dupont-Monod et Anne Berest. il faut que cette année, ce soit une femme.
Il y a aussi Christine Angot.
Ouais. Christine Angot, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr.
Oui. C'est... Maintenant, enfin, si Christine Angot n'est plus une femme,
là, tu as fait une réponse multiple à une question unique, hein, Arnaud.
Écoutez, j'en ai fait quelques-unes maintenant des rentrées littéraires. Je trouve que celle-ci est exceptionnelle de qualité.
Je suis d'accord avec toi.
Je n'arrête pas de lire des bons livres qui sont très différents les uns des autres, qui sont des propositions, mais toutes intéressantes et très souvent abouties. Donc, à mon avis, dans cette livre du Goncourt, il y a déjà 4 ou 5 livres que j'adore. Abel Quentin, parce que je l'ai lu moi aussi, je suis tout à fait d'accord.
Formidable.
Christine Angot, évidemment, on en a parlé. Maria Pourchet, nous allons en parler. David Diop, nous allons en parler aussi. Voilà, moi je trouve que c'est un très grand livre, on en parlera.
Bon, alors le prix Goncourt 2021 pour Frédéric Becbédé.
On doit prévoir celui qu'il aura ou dire ce qu'on aimerait.
Vous ne m'écoutez pas.
Non.
Le Goncourt idéal, selon vous.
Selon ton cœur, Frédéric.
Mon roman préféré, je l'ai dit, je le répète, c'est Le Voyant des Tempes d'Abel Quentin. Je pense que ce serait...
Ah, t'es du genre obstiné, toi.
Oui, bien sûr. Il faut être têtu. Quand je l'ai lu, j'ai redécouvert la joie d'admirer, qui est quand même la base de notre métier.
Ouais. Ouais. C'est vrai.
Et on lit beaucoup de mauvais livres aussi.
Tu sais que tu es presque crédible, hein.
Vous allez voir que ce soir, moi, il y a plein de choses que j'aime pas. Donc...
Jean-Claude.
Alors, moi, je pense putativement que, en effet, Tanguy Viel, son tour pourrait venir, mais puisqu'il faut que ce soit une femme, Maria Pourchet, ouais. Bah oui.
Allez, on commence justement avec Clara et le soleil, traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch chez Gallimard. C'est un roman de Kazuo Ishiguro, britannique, vous le savez, d'origine japonaise, prix Nobel de littérature en 2017 et auteur des fameux Vestiges du jour, porté à l'écran par James Ivory dans un très très beau film. Dans ce roman de science-fiction, Josie, une jeune fille qui souffre d'un mal incurable, s'entiche d'un robot de compagnie ultra performant, programmé pour s'occuper des enfants et acheté dans un magasin et prénommé Clara. Et c'est Clara qui tire son énergie de la lumière du soleil et qui pense pouvoir sauver sa petite maîtresse. Et c'est toujours Clara, l'amie artificielle, qui raconte cette histoire. D'où un style parfois un peu naïf et robotique, mais en même temps, c'est dans la loi le principe même de ce qu'a voulu pour ce roman Clara et le soleil, Kazuo Ishiguro. Frédéric.
Moi, je suis un fanatique de science-fiction depuis toujours, et dans la science-fiction, il y a 2 chefs-d'œuvre sur les robots, c'est la trilogie d'Isaac Asimov et Blade Runner de Philip K. Dick. Bon, donc là, Ishiguro s'attaque à un sujet souvent traité, à mon avis, beaucoup mieux que dans ce roman-là. Oui, le personnage, on s'y attache pas du tout. Il est non seulement d'une naïveté confondante, mais d'une froideur absolue. Pour un robot, c'est peut-être logique, mais son rôle à ce robot, c'est précisément l'empathie. C'est pour ça qu'il a été conçu. C'est un peu dommage que ça marche pas. En tout cas, pas avec moi. Au départ, c'est vrai qu'Ishiguro voulait écrire un livre pour enfants. Bon, oui, alors du coup, la robot, par exemple, elle pose des questions complètement débiles. C'est quoi l'amour? Des trucs comme ça. C'est banal, déjà fait, 1000 fois moins original que n'importe quel épisode de Black Mirror. J'ajoute que Spielberg a traité le sujet en 2001, c'est il y a 20 ans. Il y avait ce fameux film qui s'appelait AI, où c'était infiniment plus émouvant. Exactement la même histoire, franchement.
Donc t'es déçu, quoi.
Oui, je trouve que ça s'improvise pas, la science-fiction. Voilà, c'est très compliqué de décider, tiens, je vais écrire un roman de science-fiction. Et je le regrette pour cet écrivain que, par ailleurs, j'aime beaucoup.
Olivia.
Ishiguro a déjà écrit un roman de science-fiction,
oui, bien sûr.
Auprès de moi, toujours, qui est un chef-d'œuvre. Donc, dans les premières pages de celui-là, on retrouve cette ambiance très ouatée, très inoffensive. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. On ne sait pas ce qui va se passer. On est dans une période qui ressemble à la nôtre, mais qui n'est pas tout à fait la nôtre. Il y a un très léger décalage. On est ici, mais pas vraiment ici. Il y a quelques éléments un peu intrigants qui nous semble indiquer qu'on est dans un futur un peu proche.
Il faut préciser que les robots de compagnie qui font le machine learning existent déjà.
Il y en avait un dans ton dernier roman.
Oui, c'est vrai, oui.
Mais ce qui ne marche pas...
aussi développé que celui-ci. Quoi.
Ce qui ne marche pas, si je puis me parler, les garçons, ce qui ne marche pas, c'est la langue. Parce que effectivement, comme c'est un robot, cet ami artificiel qui parle, on a au bout d'un moment l'impression que c'est un auteur artificiel qui parle. Et tout ce qui est beau dans Ishiguro, je trouve, ne transparaît pas dans ce livre-là. Et les questions soulevées sont géniales. Qu'est-ce qui sépare un robot d'un humain? Moi, j'adorerais avoir un robot comme ça, qui lirait les livres à ma place, qui ferait les critiques à ma place, ça me fait rêver. Mais il y a un truc un peu nunuche dans ce livre, je trouve.
En plus, les robots dans les livres, c'est toujours la même chose.
On devrait être ému par cette petite fille.
On n'est pas ému par cette petite fille malade.
Malade, on ne l'est pas.
Ça ressemble un peu à ces romans pour les young adultes, que j'appelle toujours les romans pour les jeunes cons. Pardon.
Arnaud.
Je dois être un jeune con.
C'est la bonne nouvelle de la soirée. Je trouve ce livre est un chef-d'œuvre absolu. C'est-à-dire que là, j'ai dit que j'avais lu des très bons livres, mais aucun de ces livres n'arrive à la cheville, à mon avis, de Clara et le soleil.
Mais t'es sérieux ou pas sérieux?
Je suis extrêmement
sérieux. C'est une blague.
Alors, déjà, il y a plein de choses sur lesquelles...
C'est pas le vrai Vivian, c'est un androïde.
C'est un robot.
C'est pas du tout. Faux. D'abord, ce n'est pas un livre sur les robots. Ça, c'est idiot. Vraiment, c'est idiot.
Ah bah merci.
Rien à voir. C'est un livre sur l'intelligence.
C'est le robot la narratrice.
Non, c'est un livre sur l'intelligence artificielle. Comme d'ailleurs, Ian McEwan en avait fait un très récemment, Une machine comme moi, qui était un livre aussi très fort sur le sujet, mais rien à voir avec celui de Ishiguro. C'est pas du tout un robot. C'est une personne qui a été fabriquée effectivement par des êtres humains, mais qui a été fabriquée de telle manière qu'elle est obligée, elle n'a pas d'autre programme que aimer les autres. Ça commence comme Toy Story. Elle est dans le magasin, le robot, Clara. Donc elle est, pas robot du tout, intelligence artificielle. D'ailleurs, on ne sait pas à quoi elle ressemble.
On comprend rien de ce que tu dis.
Il va falloir aussi que tu te fasses relever dans le roman d'Ishiguro. Les gens sont relevés, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont été édités ou pas. C'est déjà un vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été édités, c'est le mot que Ishiguro emploie, c'est d'ailleurs très très bien traduit ce livre au passage, édités...
Je rappelle Anne Rabinovitch.
Voilà, édités génétiquement. C'est-à-dire que certains ont justement un truc que Frédéric devrait avoir, c'est une petite recharge intellectuelle.
Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais?
Hop, ils sont plus intelligents.
Je suis peut-être rechargé plus que tu ne le crois.
Ouais, mais pas génétiquement. Le problème, c'est que c'est pas génétique chez toi.
En tout cas, t'as donné super envie de le lire.
Voilà. Et non, alors, je pour terminer, parce que non, pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
On lui enlève sa recharge.
Et c'est aussi la première fois depuis des années que je lis un livre dont je me dis que j'ai envie que mon môme de 11 ans le lise lui aussi, car il peut le lire. C'est effectivement un livre pour les enfants, mais enfin moi, le vieil enfant que je suis, a trouvé ça, mais juste, admirable, d'intelligence. Et vous allez découvrir pourquoi le soleil, et là ça va tous nous parler, parce qu'il y a aussi cet aspect écologique très important du livre, mais qui est magnifique.
Oui, on nous l'a complètement changé.
Si le terme d'universel a un sens, alors il s'applique à ce livre.
Jean-Claude.
Alors moi j'ai eu un problème, c'est que je pense que je manque de nutriments, c'est-à-dire que j'ai pas été assez au soleil, parce que là franchement j'ai flanché quoi.
T'es un peu pâle hein.
Mais j'ai flanché, c'est-à-dire non franchement Arnaud tu te fous du monde là, tu fais le malin quoi, c'est pas possible, enfin tu peux pas.
Non, il a l'air sincère.
Oh, tu peux pas soutenir.
Non mais j'ai lu et je trouve, mais franchement ce livre est merveilleux.
Il est reparti.
Et quand même, c'est la première fois que quelqu'un...
Il est bien relevé et rechargé.
Quelqu'un peut débrancher Arnaud.
Oui, c'est ça. Oui, parce que là, il est relevé, rechargé. On va plus s'en sortir, là. Non, mais alors, c'est quoi cette histoire de livre? C'est essayer de nous expliquer qu'un robot est en fait un humain comme les autres, c'est ça? Donc, on nous explique que Clara, ce robot, a un don d'observation absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'elle scanne tout ce qui l'entoure. Why not? Le problème est que c'est ce qu'elle scanne et ce qu'elle en tire comme conclusion est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins pertinent que ce qu'avec notre misérable cerveau, on arrive à déduire des choses, si tu veux. Elle reste tout le temps à la surface de ses intuitions, elle va jamais au-delà. Alors oui, c'est un roman sur la dépendance affective, si tu veux, mais moi, je sais pas. Alors, elle semble s'interroger sur la nature humaine, mais tout ce qu'elle perçoit est très en deçà de ce que nous percevons. Donc, franchement, je vois pas l'intérêt de faire un truc de science-fiction pour vanter un robot qui, du coup, va se retrouver très en dessous.
Un robot, une intelligence artificielle.
Bon, allez, passons à d'autres livres.
Bon, c'est une perpétuelle étrangeté, ce livre, mais il ne dépasse jamais le stade d'une étrangeté, et je suis assez d'accord avec Olivia, même au niveau de la langue, c'est cuculapraloche, quoi.
Alors, il y a un truc. Il y a un point commun avec les vestiges du jour. vous vous souvenez, c'est aussi un livre d'Ishiguro, c'est ce domestique qui devient romantique. Et c'est peut-être un thème qui traverse toute l'œuvre d'Ishiguro, si on peut le dire. Donc il est cohérent avec son œuvre, mais c'est pas son meilleur livre.
Clara et le soleil, c'est donc signé Kazuo Ishiguro et c'est chez Gallimard. La porte du voyage sans retour au seuil, c'est le troisième roman de David Diop qui a reçu pour son précédent Frère d'âme le Goncourt des lycéens et surtout le 13 janvier Book Prize. Et la porte du voyage sans retour, c'est le surnom qu'on donnait à l'île de Gorée, d'où sont partis pour les Amériques à l'époque de la traite des Noirs des millions d'Africains. En s'inspirant du naturaliste français que je ne connaissais pas, Michel Ardanson, David Diop imagine l'arrivée au Sénégal en 1750, d'un jeune homme de 23 ans venu de France pour étudier la flore locale, et il va retrouver la trace d'une jeune africaine, Maram, promise à l'esclavage, qui a réussi à s'évader. Après la mort de ce Michel Adanson, sa fille Aglaé va découvrir les cahiers de notes, les souvenirs d'Afrique laissés par son père qui parlait le Wolof et écrivait notamment « Les nègres ont cultivé d'autres richesses que celles que nous poursuivons ». Juché sur nos bateaux, ces richesses sont immatérielles. Un roman comme le précédent, comme Frère d'âme, à la prose très imagée. Est-ce qu'il vous a séduit, Jean-Claude ?
Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est un livre absolument magnifique. Enfin, c'est vraiment l'œuvre d'un styliste et d'un discret moraliste. Ce qui est très beau avec la langue de Diop, c'est que la langue est parfaitement adaptée à son sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment une langue inspirée du 18e, qui est très très belle et qui ensuite va aller chercher dans le Wolof ce trésor immatériel qui est celle de la langue africaine et de tout ce qu'elle comporte, puisqu'on est beaucoup dans la transmission orale, et combien une langue porte un monde entier et un univers et des valeurs qui sont propres. Ce qui est très beau, c'est qu'on a affaire à un personnage totalement obsessionnel, puisque il s'est lancé, le vrai personnage dans la vie, s'était lancé dans une encyclopédie qui a dévoré sa vie, et dont on comprend pourquoi elle a dévoré sa vie, puisque c'était en fait pour cicatriser ce qui s'est passé en Afrique. Mais surtout, il est obsessionnel et en même temps, il est extraordinairement curieux des découvertes qu'il va pouvoir faire. C'est-à-dire que dans son obsession de répertorier toutes les plantes qui existent, il va se retrouver en Afrique, faire une vraie découverte de ce continent, et il va être perpétuellement dans cette curiosité. Et cette curiosité va le mener à aller vers cette femme qui est le pivot du livre, qui sur quoi repose tout le récit romanesque. Et ce qui est vraiment très beau, c'est une histoire d'amour très singulière, c'est un livre d'aventure, c'est un essai philosophique, c'est un traité philosophique au 18e. Et puis ce qui est très beau, c'est le rythme des phrases de Diop, où ça avance paisiblement, d'un pas très sûr, très tranquille, oui, mais c'est très beau, c'est pas... Il a aussi, et c'est bien parce qu'il a l'audace de ça, il revendique le mot nègre au sens de la négriture chère à Césaire.
C'est qu'au 18e siècle.
Oui, mais aujourd'hui, il semble que si tu écris nègre, tu vas... Et là, il le revendique et surtout, il assume l'héritage de Césaire par rapport à ça.
Bon.
Toutes les descriptions du colonialisme.
On t'a entendu, voilà. Très bien.
C'est une grande délicatesse.
On a entendu ça aussi également, on l'avait compris. Olivia ?
Non, moi, je suis beaucoup plus partagée. J'ai l'impression que... Par rapport au livre précédent, qui était d'une violence inouïe, c'est comme si l'auteur se retenait là. Et je trouve qu'il y a des choses magnifiques, notamment tout ce qui concerne le travail justement d'entomologiste, de biologiste, et quand il parle tout d'un coup des hibiscus, je trouve ça sublime. Ce que je trouve beaucoup plus faible, c'est d'une part le procédé littéraire, qui consiste à cacher un journal intime dans un tiroir que sa fille va découvrir. Donc déjà, je trouve que c'est un peu convenu.
Et c'est très 18e, ça.
Peut-être, Exactement. Mais aujourd'hui, on n'est pas au 18e.
Oui, mais il raconte une histoire du 18e, donc pas des robots artificiels. Mais, voilà.
Je trouve que c'est un peu convenu. Et je trouve que l'histoire d'amour, elle est aussi un peu convenue. Moi qui, alors à la fin d'un polar, on me donne le nom du meurtrier, je comprends pas. C'est vous dire que je suis pas très finaude. Mais là, à partir du moment où on nous explique quel est l'enjeu du livre, c'est-à-dire pourquoi une jeune femme a disparu et pourquoi... Encore plus mystérieusement, elle est réapparue alors que personne ne revenait évidemment de l'esclavage. Mais tout de suite, on comprend tout ce qui lui est arrivé. Donc, je trouve que la narration du livre n'est pas très intéressante et que le livre est sauvé par le personnage de la femme qui est éblouissant.
Frédéric,
Vous savez, c'est comme quand on va voir un film dont tout le monde vous a dit du bien. Le livre a été tellement encensé depuis un mois.
Tu parles de Frère d'âme ou de celui-là ?
Celui-là.
Ah, celui-là.
Celui-là a une énorme
presse. C'était le cas du précédent aussi. Hein.
On sent que tout le monde a envie que cet auteur et que ce roman cristallise quelque chose d'important et de nécessaire et d'urgent. Et on est évidemment tous d'accord avec cette critique de l'esclavage, des colonies et tout ce que tu veux. Mais ça tombe pas sur le meilleur livre. C'est ça qui est embêtant. Quand tu as entendu tous les éloges et que tu l'ouvres, je suis désolé, je suis pas d'accord du tout sur la forme. Moi, la forme, elle m'a paru amphigourique, ampoulé, tarabiscoté, avec des propositions relatives, des qui, des que, des participes présents partout.
18e.
Oui, 18e, non, je suis désolé, t'as aussi Vivant de Nom au 18e, c'est quand même un peu plus ramassé. Là, c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours 3 ou 4 mots en trop à chaque phrase, où c'est moi qui suis fatigué.
C'est le Wolof, c'est l'effet du Wolof,
Non, mais donc je suis embêté par cette forme qui me paraît finalement très prétentieuse. Alors il y a...
Non.
Il n'y a aucune...
Je rappelle que David Diop est prof de littérature.
Oui, c'est d'autant plus étonnant qu'il est...
À la fac de Pau, de littérature du 18e.
Oui, non, c'est d'autant plus étonnant parce que, justement, il n'y a pas cet esprit un peu espiègle qu'il peut y avoir dans les romans du 18e. Là, c'est très, très sérieux. Et puis, je suis d'accord avec Olivia sur la construction. Ça commence par le vieillard mourant et puis sa fille Aglaé qui va aller dans un château. Dans ce château, on va trouver le carnet de son père. C'est très long avant qu'on arrive sur l'île de Gomé. Hein.
Sauf que juste, vous oubliez un truc historique, c'est que le château existe toujours et que c'est toujours les descendants de ce naturaliste qui s'occupent de ce château. Donc tu vois l'invention de David Diop, il a inventé quelque chose, sauf que cette chose existe toujours aujourd'hui. Donc moi je veux bien...
Non mais il a inventé un procédé narratif
par rapport à une réalité qui existe toujours.
Moi je pense que tout ce qui ressort de la réalité est réussi. Là où ça marche moins bien, c'est quand il invente. Et d'ailleurs je trouve que ce personnage, il est très complaisant avec lui-même, il va quand même précipiter une tragédie sans en avoir trop de remords.
Moi j'ai adoré, je trouve. Non, c'est vrai, je vous assure, c'est une immense histoire d'amour, impossible évidemment, comme les grandes histoires d'amour, impossible. Il y a un vrai travail d'historien, c'est-à-dire que ce personnage a réellement existé, et c'est un botaniste, donc c'est un spécialiste des espèces, il sait distinguer les espèces.
Michel Adanson.
Voilà, Adanson, et donc il avait fait, il voulait publier son encyclopédie en 100 tomes, et c'est ce qui va l'amener à la fin, on découvre ça, et c'est la subtilité du livre, à mon avis, de David Diop, c'est qu'on va découvrir qu'il va même trahir sa propre pensée au niveau de l'esclavage dans l'espoir de pouvoir publier son encyclopédie. C'est, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là dans ce livre de David Diop, c'est qu'il se présente sous la plus grande des simplicités. Et puis en plus, bon évidemment, il traite vraiment du problème de l'esclavage, mais pas d'une manière binaire justement. Là, franchement, il y a une pensée non binaire sur l'esclavage, c'est-à-dire qu'il montre comment l'esclavage, tout le monde le pratique. À un moment, il y a une histoire de selle anglaise, hein, une selle pour un cheval qui est offert au personnage, eh bien, ce sont des nègres, comme il disait donc à cette époque, qui l'offrent et qui ont vendu des esclaves à des Anglais pour pouvoir avoir la selle. Donc, si vous voulez, il y a une subtilité là dans la pensée de David Diop. C'est vraiment un historien qui vous raconte ça. Et la scène, quand même, où ils vont se toucher, parce que il y a qu'un seul moment où ils vont se toucher, mais c'est juste magnifique, magnifique.
La porte du voyage sans retour au seuil, c'est signé David Diop. Feu chez Fayard. Le 6e livre de Maria Pourchet, sociologue de formation et scénariste pour la télé et le cinéma, dont vous aviez aimé avancer. Et puis toutes les femmes sauf une. La femme d'ici, c'est Laure, 40 ans. Professeur d'université à Cergy, mariée, mère de 2 filles, dont une Vera de 17 ans vraiment en révolte, qui habite un pavillon à Ville-d'Avray, et puis Clément, 50 ans, célibataire, qui bosse dans une banque au sommet d'une tour de la Défense, qui regarde YouPorn, qui parle à son chien, qui est un bouvier bernois, qui l'appelle papa. On voit qu'il a quand même des problèmes. Les deux, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, vont faire connaissance dans un resto, se lier, s'enflammer et se raconter à tour de rôle. C'est vraiment un livre, sans jeu de mots, inflammable, et qui d'ailleurs apparaît lui aussi dans beaucoup de listes de sélection des prix littéraires. J'ai l'impression qu'on parle depuis longtemps de Maria Pourchet, mais que là, je dirais que c'est l'année où ça n'a jamais été aussi fort, n'est-ce pas Frédéric ?
C'est fantastique, c'est vraiment, j'ai une admiration sans borne pour Maria Pourchet, j'avais adoré Les Impatients, on en avait parlé ici d'ailleurs.
Absolument.
Elle était beaucoup plus cynique. Là, elle parvient à faire quelque chose d'incroyable, c'est débat.
Sur un sujet pourtant convenu.
Sujet ouais. Le plus banal du
franchement.
Monde. L'adultère bourgeois.
Avec deux personnes qui sont pas. Qui n'est pas le genre de l'autre.
C'est le sujet le plus traité dans toute l'histoire du roman. Hein, c'est simple. C'est la femme mal aimée qui tombe amoureuse d'un type qui ne s'aime pas.
Et qui n'est pas aimable.
Et pourtant, elle débarrasse cette histoire d'amour de toute niaiserie. C'est écrit avec une densité, une originalité constante. On pense un peu à Yasmina Reza, par moments. C'est ça, cette idée de toujours...
Pas dans l'écriture.
Je trouve que c'est très très fort. Oui, c'est banal, mais il faut un talent fou pour y arriver. Je cite des phrases. Avant, rentrer chez toi, c'était normal. Désormais, rentrer, c'est comme vieillir, comme perdre. Ou tu reviens vers sa peau comme au front. Il y a des trouvailles tout le temps. Quand elle le rencontre, elle trouve qu'il a des mains pessimistes. Elle compare ce mec à une... C'est une plaque de verglas sur ta route.
Pourquoi tu me regardes?
et finalement, elle dit, voilà, c'est un amour de restaurant. Non, franchement, elle est surdouée. Et puis alors, une chose qui est merveilleuse, il y a beaucoup, beaucoup de salauds dans cette rentrée, de personnages d'hommes qui sont des violeurs, des criminels, des pédophiles, des incestueux.
On va y venir après.
Il y en a beaucoup. Et là, il y a une femme qui écrit un livre sur un homme, certes, qui est un idiot pathétique, mais attendrissant. Et voilà, ça fait du bien quand même de lire un portrait d'un crétin fragile, émouvant, ridicule, mais dont on tombe amoureux.
Arnaud.
Ben moi, c'est le livre que j'attendais le plus, sans doute, dans cette rentrée. J'adore Maria Pourchet.
Tu le dis souvent au masque, hein, depuis
ouais,
longtemps.
Vraiment, c'est voilà. Je parle des fois de l'école d'Épinal, puisqu'elle est d'Épinal comme Nicolas Mathieu, et il y a quand même une même idée entre les deux écrivains, qui n'écrivent pas de la même manière, mais qui a la même idée quand même d'un réalisme rocambolesque, on va dire. Et elle, c'est très intéressant la manière dont Maria Pourchet se décrit. Vous savez, il y a toujours une petite ligne, quatrième de couverture, où l'écrivain... Et donc elle écrit, Maria Pourchet est scénariste et romancière. C'est très intéressant, c'est les deux mots qu'elle choisit, et en mettant scénariste en premier, ce qu'elle fait effectivement. Et c'est vrai que sa force en tant que romancière, à mon avis, c'est de maîtriser aussi les codes de la fiction cinématographique. Il y a un art du dialogue, un art de la scène, qui vient, à mon avis, du montage, on pourrait presque dire, et effectivement, quelque chose d'une langue qui reflète précisément là où on est aujourd'hui. C'est vraiment un livre de 2021. D'ailleurs, elle parle très bien un tout petit peu du confinement. Et puis, si vous voulez, la chose que je trouve remarquable, c'est que c'est sans doute le plus beau personnage de chien, papa, que j'ai lu depuis longtemps.
Moi, je le prends pas,
dans
moi.
La littérature. C'est vraiment, je crois qu'on n'avait pas vu un chien aussi sublime depuis les chiens dans les romans de Houellebecq.
Il est quand même très, très, très marqué.
Ça veut dire, si elle n'a pas le Goncourt, elle peut avoir le prix 30 millions d'amis. Quoi.
Ah ouais, sûr et certain, ouais. Un papa quand même inoubliable.
Olivia.
Ah, j'adore, c'est absolument formidable. Tu parlais, Frédéric, de la joie d'admirer. Et là... Vraiment, j'ai ressenti cette joie toute la lecture. Ce qui est sidérant, c'est qu'il y a une dualité entre la langue qui est moderne, inventive, elle écrit à la Kalachnikov, c'est tonitruant, et le fond du livre, qui est quand même d'un pessimisme,
ah oui.
C'est sinistre. C'est-à-dire que la fille, c'est un jeu de massacre. Elle dégomme tout. Les femmes, les hommes, la famille, le couple, l'adultère.
Les enfants.
Le personnage de Vera.
Parce que Vera. Même l'adultère, il est nul. Il y a une phrase que j'adore. Elle dit.
Même l'adultère, il est nul.
Tiens, on a fait l'amour comme on allume la radio en bagnole. C'était nul. Et là, mais on voit tellement ce qu'elle veut dire. Et ce que je trouve admirable dans le livre,
oui.
Non, je parle de Maria Pourchet, espèce de jeune con. C'est le seul personnage, je trouve, qui est sauvé dans le livre, c'est précisément le mari, qui est médecin, et je suis sûre qu'elle l'a choisi à cause du médecin de Charles Bovary. Et je trouve que lui, finalement, on pense que c'est le cocu, l'idiot de l'histoire, mais en fait, c'est un bon. Moi, j'aime beaucoup le mari. C'est aussi un livre sur
qui est médecin, c'est le côté, parce qu'il y a un côté Bovary 2021.
Et bien sûr, c'est ouais, Bovary. C'est exactement ce que je dis. C'est ce que je disais.
Jusqu'à la fin, mais la fin inverse sans en dévoiler la fin inverse le schéma traditionnel.
C'est un grand livre sur la malédiction, je trouve, de tout ce qu'on reçoit de notre milieu et tout ce qu'on reçoit de nos mères. C'est une charge contre les mères, mais absolument épouvantable, parce qu'elle, elle a tout le temps la petite voix de sa mère, qui est dans la tombe, et qui lui dit, j'ai pas fait tout ça pour que tu te gâches, pour que tu gâches tout dans ta vie. Et lui, l'homme, il a tout le temps la voix de sa mère, qui lui dit, je ne t'ai pas aimé, et donc personne ne peut t'aimer. Et le truc le plus intéressant du livre, c'est pas la guerre des sexes qui est omniprésente dans la littérature aujourd'hui, c'est la guerre des générations. Le personnage principal, la femme, elle est sans arrêt conspuée par sa propre fille. Il n'y a plus de transmission possible avec les jeunes générations qui nous détestent.
Jean-Claude.
Il y a la fille, attends, je te dis juste cette phrase qui est géniale. Qu'est-ce que tu fous encore avec ta crème, tes sérums et ta mini-jupe à défendre ta jeunesse comme la Palestine? Tu vois bien que c'est foutu. Chapeau, Maria.
Jean-Claude.
Boucher.
Non, mais c'est bien parce que le plaidoyer d'Olivia est tout à fait juste. C'est follement original, quoi. Il y a une énergie du style, il y a une vitesse du rythme. Il y a une déclinaison quand même de la passion. Vous l'avez pas assez dit quand même. Où vraiment, toutes les étapes de la montée aux extrêmes jusqu'à la désillusion et au ravage, c'est très finement traduit. C'est vraiment les obsessions, les replis, les impatiences, les impératifs, les fulgurances, enfin, tout ce qui amène à la dévastation. Tout y est. C'est marrant, c'est vif, c'est tragique, c'est percutant. C'est littérairement enthousiasmant et terriblement excitant. Et le personnage de la fille, quand elle explique Andromaque, il y a 3 pages, mais qui sont dévastatrices. Mais tout est, enfin, c'est une vraie réussite. Et surtout, on en revient à la fin du livre, toujours à la définition de Lacan. C'est vraiment l'illustration de ça. Aimer, c'est vouloir offrir quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas.
Exactement.
Voilà. Eh bien, c'est ça. Ce livre, c'est ça. Voilà.
Ouais. Et c'est une réussite.
C'est ça, le livre.
Voilà. Jetez-vous sur feu. Chez Fariard de Maria Pourchet, c'est le conseil unanime du Masque et la Plume. La fille qu'on appelle, le nouveau roman chez Minuit de Tanguy Viel, l'auteur d'article 353 du Code pénal. Et celui-ci pourrait s'intituler article 222-22 du même Code pénal, puisqu'il y est question d'emprise et d'abus sexuels dans une ville bretonne, qu'on reconnaît un peu, hein, quand même. Elle est assez bien décrite avec ses remparts. Bref, un maire, c'est Quentin Lebar, 48 ans, a pour chauffeur un boxeur, Maxime Lecor, alias Max, qui a été champion de France 2002, catégorie mi-lourd. À son patron, Max demande un service, trouver un logement à sa fille Laura, 20 ans, qui revient vivre près de lui. Le maire ne se fait pas prier pour lui trouver un job au casino et un studio où il vient aussitôt lui rendre visite. La suite, Laura la raconte aux policiers après avoir porté plainte. Mais qu'est-ce que peut une jeune fille coupable d'avoir posé en sous-vêtements sur les abrébus quand elle avait 15-16 ans contre le nouveau ministre des Affaires maritimes, puisque le maire est devenu entre-temps ministre des Affaires maritimes et surtout après que Max, le boxeur, l'a bien amoché, Olivia.
Ah, j'ai adoré aussi. C'est exceptionnel d'intelligence.
Je vous rappelle quand même qu'il y a 15 jours, on a fait un masque littéraire de la rentrée littéraire, qui est le premier historiquement, depuis que j'anime cette émission, où vous étiez, vous avez tout aimé. J'avais jamais connu ça.
Mais c'est ce que dit Arnaud.
Et là, on recommence. Non, mais Arnaud, c'est une pathologie, là. Il est bizarre. C'est autre chose. On voit bien qu'il n'est pas normal. Mais c'est vrai que c'est quand même une rentrée
exceptionnellement
qui vous rend tous très euphoriques.
Enfin, pas Tanguy Viel. Hein. Tanguy Viel, c'est totalement nul, mais on va en parler.
Ouais.
Laissez-moi
mais qu'est-ce
parler.
Que tu fais?
Non, mais Tanguy Viel.
T'es fou, Frédéric.
J'ai détesté ce livre.
Sortez-le.
T'es fou.
Sortez-le.
Moi aussi. Non, hein. Moi aussi, Frédéric, je l'ai détesté.
Ah, merci.
Oh.
Mais sortez-le.
C'est intelligent.
Il y a des retournements incroyables.
C'est bien
sortez-le.
Écrit.
Allez.
Non,
c'est nul.
Ils sont
c'est
fous.
Et que font-ils
c'est
ici, nul.
Un livre génial pour décrire ce c'est que
formidable.
C'est qu'une
mais
emprise.
Voilà.
Mais bien sûr. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'on comprend comme l'emprise ne passe pas par les mots. Parce que d'ailleurs, les deux prédateurs, il y a un prédateur et il y a un mec ignoble, ils ne finissent jamais leurs phrases. Et on comprend bien que l'emprise passe par des gestes. C'est-à-dire que vous avez une jeune fille et un prédateur dans une chambre, et il suffit que l'homme s'asseye sur le bord du lit, il ne dit rien, il pose juste sa main sur elle. Et à ce moment-là, elle dit que ce moment-là où on devrait prendre ses jambes à son cou, eh bien justement, c'est ce moment-là où l'emprise,
c'est ça, l'emprise
fait son effet et que tout d'un coup, cette fille, elle dit qu'elle n'a plus de volonté. Et elle a une phrase très très belle. L'enquêteur lui dit « Mais vous n'avez pas pensé à porter plainte juste après cette scène ?» Et elle dit « Si, mais j'ai plutôt voulu porter plainte contre moi-même. » Et c'est cet anéantissement de la volonté, je trouve, qui raconte et qui raconte de manière spectaculairement intelligente.
Frédéric.
Et en plus de ça, ça ressemble à un film de Chabrol. Il y a cette espèce de petite ville, ces voyous, ce maître du casino qui a toujours un costume blanc.
Oui,
il y a vraiment quelque chose exactement de cinématographique et d'extrêmement beau. Ce livre est formidable. Maintenant, n'écoutez pas Frédéric, il va dire n'importe
Frédéric,
quoi.
Frédéric, qu'est-ce qui te prend ?
D'abord, tu révèles ton goût pour le débat, ça fait plaisir. Mais c'est pas du Chabrol, c'est un mauvais moquis. Tout est outrancier, tout mais est caricatural.
Ah, mauvais moquis, c'est un peu pléonastique. Hein.
Ouais. Mais le maire. Non, attends, je ne laisserai pas dire ça.
Non, mais jamais il y a eu cette finesse chez moquis.
C'est le roman le plus prévisible de l'année et le plus politiquement correct. Et il déroule un programme du début à la fin. Dès le début, on est donc dans un commissariat avec une fille qui vient porter plainte pour viol. Et
non, non, justement, elle dit que c'est pas un viol, fais attention.
Enfin bon, harcèlement, emprise.
Bah justement, elle ne sait pas le nommer et tout est là.
Bon, les flics sont goguenards, salaces et vulgaires.
Oh.
Le violeur, c'est à côté Patrick Balkany, c'est le Dalai Lama. Il est complètement pourri, mais jusqu'à la moelle.
Ouais, c'est vrai que là.
C'est lourd. Je sais pas si jamais on devait. C'est dommage qu'il n'y ait pas des Césars pour les livres, parce qu'il aurait le César du meilleur film, celui-là. Je ne sais pas quel est l'intérêt de lire un livre où tout est prévisible du début à la fin et il déroule le programme jusqu'au bout et on se dit mais c'est tout.
Ce que va faire le père chauffeur boxeur à la fin est parfaitement imprévisible.
Hein.
Absolument imprévisible.
Ah bon?
La manière dont le
père est boxeur, sa fille se fait harceler. Qu'est-ce qui va se passer à la fin à ton avis?
Non mais là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est depuis quand les prédateurs, ils devraient ne pas être monolithiques et être en plus délicats, qu'on leur donne un certain nombre de finesse et de qualité.
La Laura, elle est mannequin en photo, je cite, entre guillemets, sur toutes les affiches déployées sur les murs des villes, de bus.
Quand elle était adolescente.
Oui.
Et elle cherche un studio dans un casino en province.
Et alors,
elle mannequin
a pas le
sur tous les murs de la France, t'as de l'argent?
Mais non,
elle est mannequin lingerie.
Quand elle était au collège, elle
n'est pas,
pas du tout.
Une top modèle. C'est
pas
une
lu.
Petite mannequin.
Bah, bon. Sur tous les abribus de ton pays, oui, ça s'appelle techniquement un top modèle.
Non, c'est une
elle posait
mannequin.
Pour des sous-vêtements quand
Exactement.
Elle était adolescente. Elle a été rattrapée à la sortie du collège. Mais non, c'est pas
ça. C'est passionnant ce que vous racontez.
Alors Jean-Claude.
Non, c'est vrai que cette conversation prend un tour là.
Non, mais c'est sûr.
Et à la lourdeur.
On n'y croit pas.
Alors
quoi.
À la lourdeur que dénonce Frédéric. Moi, je pose la légèreté de Tanguy Viel, la légèreté du style, la finesse du propos, le rythme très, très, très délicat que Tanguy Viel impose à ses phrases. Et c'est des phrases tricotées, serrées, en même temps très longues. Par exemple, le portrait de l'élu local, il tient en une page et c'est deux phrases. Mais deux phrases longues et qui sont absolument magnifiques parce que les phrases s'enroulent sur elles-mêmes. Il y a une très grande légèreté. C'est plein d'images poétiques, de considérations imagées, d'ironie légère. La légèreté, elle est même glaçante chez Tanguy Viel. C'est-à-dire que toi, tu parles de l'arrivée dans la chambre, mais avant la chambre, il y a le premier contact avec ce maire
dans la mairie.
Et comment ce type met la main sur la fille? Tout de suite, la légèreté glaçante avec laquelle le fait Tanguy Viel et le mécanisme qui s'enclenche, c'est-à-dire que la sidération de la fille, évidemment le consentement entre guillemets et évidemment l'emprise qui conduit évidemment au viol. Voilà.
Évidemment.
Non. Quand j'ai commencé avec mais évidemment, je me suis dit je vais y avoir droit avec lui. Or c'est pas ça dans le livre. C'est d'une très grande légèreté.
Il y a intérêt de raconter une histoire qu'on connaît par cœur.
Le chapitre.
Un mélange de l'affaire Tron et de l'affaire Darmanin.
Le chapitre. Le personnage du boxeur.
Si on peut juste donner un conseil à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est n'offrez pas ce livre à Gérald Darmanin. Il pourrait mal le prendre. comprendre. Franchement, d'autant que l'enquête n'est pas close, comme le lui a rappelé en début de semaine Léa Salamé dans le studio de France Inter. Donc, parce que c'est quand même ça. C'est quand même ça, je veux dire, à mon avis, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est ça. C'est une petite ville.
Je pense vraiment
mère,
que c'est le modèle.
Moi, je pense pas. Non.
Non, t'es en train de tirer Tanguy Viel. Non, c'est pas bien. Le livre vaut mieux que ça. Non, franchement.
Moi, c'est mon hypothèse. Pour le reste, je suis totalement d'accord avec Frédéric. C'est un petit polar chabrolien surécrit, mais totalement surécrit. Il utilise le mot comme, la locution comme, 3 fois par page. Je ne sais pas, on ne lui a pas dit qu'il y avait des synonymes de temps en temps. En plus, ce n'est pas bien écrit et tout est caricatural. Effectivement, le méchant, il est trop méchant.
Écoute.
Le boxeur, il sort d'un film des années 50. Enfin, il ne sait pas écrire sur la boxe, qui est un vrai truc littéraire.
Non. Quand tu parles de la boxe, tu en parles de façon très légère pour le coup. Excuse-moi, mais le chapitre sur le combat de trop du boxeur est un chapitre absolument merveilleux.
Oh,
et précisément, la littérature a beaucoup utilisé de la boxe, parce que la boxe est un genre... Et franchement, il s'illustre magnifiquement sur la boxe, le combat de trop et la destruction d'un homme...
La fille qu'on appelle, si vous voulez, la destruction d'un homme sur un livre.
Voilà. Et ça, Tanguy Viel révise ça alors qu'il est léger.
La fille qu'on appelle, c'est Tanguy Viel et c'est chez Minuit.
Jérôme, le titre, magnifique le titre. Magnifique le titre.
On termine avec Pas dormir, le récit de Marie Dariussec chez POL. Parce que je sais combien, à force de lire, vos nuits sont courtes. Hein. Première phrase de livre, j'ai perdu le sommeil, je me suis retourné sur mes pas et il ne me suivait plus. Il s'était détaché de moi et j'errais sans lui dans la nuit. La romancière de Naissance des fantômes souffre, alors il faut dire très précisément depuis 20 ans, depuis la naissance de son premier enfant, d'insomnie. Et comme elle a essayé en vain toutes les méthodes... C'est très bien détaillé, hein. Il y a les somnifères, la méditation, les tisanes, le vin rouge.
Elle en appelle... Vin rouge avec Stilnox.
Absolument.
Mieux.
Mais il y a plein de mélanges, hein. Et je dis pas tout. Elle en appelle à tous les insomniaques de la littérature. Alors Proust, bien sûr, qui longtemps ne s'est pas couché de bonheur et qui carburait au chloral. Duras, qui buvait.
C'était 8 bouteilles par jour.
C'est incroyable.
Même. 8 bouteilles.
C'était un trou.
Soudainement, j'étais réconforté.
Kafka, le saint patron de l'insomnie, Gide ou Cioran. Et j'ai trouvé ça à la fois effrayant, il faut dire la vérité, et très drôle, avec plein de photos personnelles, parfois intimes, de confidences, de nuits blanches en Afrique noire, ça c'est toute la fin du livre, de consultations chez une somnologue. Je ne savais pas qu'il y avait des somnologues. Et j'ai lu, et moi ça m'a empêché de dormir complètement, hein. Mais pendant des nuits et des nuits, j'ai fait la bêtise, faut pas le lire le soir ce livre-là, c'est impossible.
J'ai pas du tout eu ce problème. Je trouve que c'est de la publicité mensongère.
Pourquoi ?
Il y a écrit pas dormir et ça donne sommeil.
Oh, j'étais sûre que tu allais dire ça.
Pourquoi tu dis ça ?
Mais je trouve que, tu vois, dans la liste des choses à faire, pour dormir, elle a oublié de lire son livre. Ça fonctionne bien.
Oh. Non, mais dis quelques mots, parce que de toutes les manières...
Personnellement, il y a beaucoup de choses... Il y a vraiment des choses à piocher. Il y a beaucoup de choses bien écrites et touchantes. C'est un vrai sujet, c'est intéressant. Mais j'ai un problème avec l'abondance de citations...
C'est un mélange tout ça, hein, c'est un patchwork. Hein,
oui,
y compris dans les photos et dans les...
On pourrait appeler ça les romans Google. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'elle a googlé insomnie.
Elle
a mis là-dedans tout ce qu'elle avait trouvé.
Non, c'est pas possible de dire ça.
Bah, écoute, il y a toutes les citations qui existent.
Toute une vie de lecture.
Il y a beaucoup de citations, ça c'est vrai. Beaucoup
de lecture et de films.
Jean-Claude.
Alors moi, c'est lisez-le, vous trouverez le sommeil.
À toi aussi?
Je l'ai lu en plein jour. Page 54, pof. Pof. Alors, j'ai trouvé ça soporifique et assommant, et mon corps a suivi, c'est-à-dire que ce que je vivais comme lecteur, mon corps a suivi, a lâché. Et alors, en même temps, quand je me suis réveillé, c'était un peu comme la sieste sur l'autoroute, j'étais plein d'énergie, et je me suis endormi au bon moment, parce qu'après, ça reprenait, et je trouvais que c'était pas inintéressant, qu'il y avait des choses assez intéressantes. Alors évidemment, c'est un herbier de citations, c'est un fourre-tout de copier-coller. Alors il y a des choses intéressantes, en effet, c'est à piocher. Alors il y a des choses très audacieuses, hein, par exemple, la révélation de son propre alcoolisme pour essayer de lutter contre l'insomnie.
Elle raconte toute sa vie privée. Elle dit qu'elle a eu plein d'amants, qu'elle a tout essayé.
Alors, il se trouve que Marie Dariussec s'aime beaucoup. C'est-à-dire, oui, elle se cite beaucoup dans son livre. Elle se cite.
Elle renvoie
des notes en bas de page sur son œuvre. Elle met des photos d'elle dans plein de bonnes circonstances. Non, c'est vrai. Mais c'est bien qu'un auteur s'aime bien et qu'il vienne à nous le faire savoir. alors, en même temps, elle cite, par exemple, elle cite beaucoup Marguerite Duras. Et alors, il y a des choses très marrantes comme Marguerite Duras. Alors, je crois, Marguerite Duras disait, je crois que l'insomnie débouche sur ce que j'appellerais la grande intelligence.
Olivia.
Ah ben moi j'adore. Moi j'étais chez moi. Moi je ne dors pas. Donc moi j'ai trouvé une petite tribu d'amis. C'est un livre qui ne ressemble à rien d'autre parce que c'est vraiment ni un récit, ni une encyclopédie, ni un roman autobiographique. C'est une tentative d'épuisement de l'insomnie.
Du lecteur.
C'est vraiment un livre pour moi pérequien. Et en plus, qui colle tout à fait avec le sujet, parce que l'insomnie, c'est l'épuisement. On a beau vous dire, tu es fatigué, tu vas dormir. C'est la phrase la plus bête du monde.
Ce qu'elle raconte est d'un calvaire, franchement.
C'est horrible de ne pas dormir. Et en même temps.
Tu ne dors pas du tout, Olivia?
Non, j'ai l'impression que tout le monde part dans une traversée, que moi, je ne m'endors pas, non. Et elle raconte aussi très bien cette chose très drôle qui est le mépris pour les dormeurs. Ceux qui dorment, comment ils font, ce sont des simplets. Et je trouve qu'il y a une chose qui m'a bouleversée dans ce livre, c'est qu'au milieu, il y a un livre caché qui est la vraie raison pour laquelle elle ne dort pas. Je ne vais pas vous la raconter, mais c'est un fantôme. Toute l'œuvre de Marie Dariussecq est hantée par les fantômes. Et au milieu du livre, moi, je pouvais pleurer. Alors qu'elle est très, très drôle. Elle a une espèce d'autodérision pour raconter qu'elle est alcoolique. Où elle fait la photo de tous les somnifères qu'elle a. Mais moi, je bavais devant cette photo. Je me disais, cette pharmacie qu'elle a et que je n'ai pas. Je voulais arracher la page, aller chez mon pharmacien. Et tout d'un coup, il y a le fantôme d'un petit garçon mort, et c'est super.
Mais elle dit très clairement qu'elle a cessé de dormir quand elle a commencé à faire les nuits avec son
de ses enfants. Mais pourquoi? Parce que naissance de ses enfants lui a rappelé que les enfants sont mortels.
Arnaud, quelques mots sur ce livre, parce que on a le temps de faire un conseil.
Je suis d'accord avec Olivia, je trouve ça très réussi. Elle veut épuiser effectivement le sujet de l'insomnie avec tout ce qu'il faut, avec de l'autobiographie. C'est un livre transgenre, là, pour le coup. Oui, c'est pas un livre non-binaire, c'est un livre transgenre qui mêle à la fois l'autobiographie, des récits de voyage. Elle a énormément voyagé. Elle a été au Rwanda.
Toute la fin, c'est l'Afrique, c'est incroyable.
Oui, l'Afrique, elle connaît parfaitement l'Afrique.
Il y a un chapitre
sur les animaux qui est remarquable. Alors, on voit plus trop le sujet de l'insomnie.
On voit plus trop ce que ça vient faire là non plus.
Mais c'est parce que ça l'empêche de dormir.
C'est vrai qu'elle est narcissique, mais elle a un narcissisme très joyeux.
Elle est intelligente et rigolote.
Sur un sujet, sur l'insomnie, elle vous fait marrer. Et donc, faut y aller quand même.
Ah oui.
C'est donc Pas dormir, un récit de Marie Dariussecq chez POL qui divise les critiques et le temps est venu des conseils de fin d'émission. On va commencer ici à Nancy par Olivia.
Alors ce n'est pas un premier roman, je n'ai pas eu le temps d'en lire, mais c'est un livre qui est sur la liste du Goncourt et du Femina, qui est merveilleux, qui est le livre le plus fragile, le plus délicat, le plus beau de cette rentrée. C'est celui de Clara Dupont-Monod.
Ah, bouleversant.
Qui s'appelle S'adapter.
Voilà encore un autre fantôme, petit fantôme.
Un petit fantôme. Hein. C'est l'histoire d'une fratrie. Comment l'arrivée d'un petit garçon inadapté, d'un petit garçon extrêmement handicapé, avec une espérance de vie minuscule, comment cet enfant va être ressenti par les membres de la fratrie. Et comment l'un va développer une affection. Il y a les plus belles pages que j'ai lues de l'affection d'un grand frère pour un bébé. Vraiment, on en pleure. Alors que la sœur va développer un sentiment de colère absolument dévorante et de culpabilité également dévorante. Et comment l'enfant d'après, qui est une sorte de joie sur terre, comment cet enfant, lui, va vivre cet enfant qu'il n'a pas connu, ce frère qu'il n'a pas connu.
Dans les Cévennes, c'est une famille protestante et ce sont les pierres de cette maison qui raconte l'histoire de ce...
Parce que j'ai l'impression que sur ce sujet très personnel, enfant. Clara Dupont-Monod, tout d'un coup, elle ose tout. Elle ose une écriture qu'elle n'avait jamais développée dans les précédents livres historiques qu'elle avait écrits. C'est merveilleux. Et ça s'appelle S'adapter,
c'est chez Stock. Clara Dupont-Monod, Arnaud.
un premier roman, le premier roman de Vincent N, qui a publié d'autres livres, mais qui étaient toujours des récits de voyage. C'est un spécialiste du sud-est asiatique. Il a longtemps vécu en Chine. Et là, il raconte une histoire vraie, mais c'est un roman parce que il bouche les trous. Il est obligé de romancer cette fiction. C'est La disparition de Jim Thompson aux éditions Arléa, qui est sur la liste du Femina aussi, d'ailleurs. Jim Thompson a existé. Ça n'a rien à voir avec l'auteur de Polar que Bertrand Tavernier avait adapté avec Coup de torchon. C'est un homme d'affaires américain qui a donc réellement existé. On peut encore visiter sa maison à Bangkok. Et puis, en 1967, en plein guerre du Vietnam, au moment où, et c'était un agent de la CIA aussi, il disparaît sans laisser de traces. Et c'est cette disparition dans un contexte politique et géographique particulier, donc Bangkok, la guerre du Vietnam. Voilà, c'est ce que raconte dans ce très beau roman. C'est très sobre, c'est à l'ancienne. C'est on dirait du Graham Greene, si vous voulez. Vincent, il a fait un travail remarquable. C'est très court. La disparition de Jim Thompson de Vincent Haine aux éditions Arléa.
Mon conseil, c'est un livre qui s'appelle Bélazar de Jérôme Chantreau chez Phébus. Chantreau a été au Pays Basque, que connaît bien notre ami Frédéric, le professeur de Bélazar, un garçon surdoué, illuminé, qui est mort à Dinan dans des conditions très étranges, atteint d'une balle de son propre pistolet. Il avait 18 ans et la thèse retenue officielle, c'est le suicide. Mais Chantreau, Jérôme Chantreau n'y croit pas. Il va alors mener, quitte à tout perdre, sa femme, sa maison, son premier éditeur, mener une enquête pour connaître la vérité. Je trouvais ça absolument passionnant. Et quand on sait que cette histoire est vraie, évidemment, c'est encore plus frappant. Bélazar, Jérôme Chantreau, c'est chez Phébus. Le conseil de Frédéric.
D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Olivia et toi sur Clara Dupont-Monod, qui est un livre incroyable, sublime. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans un premier roman ? Un ton, une voix, un univers, une petite musique. Là, il y a tout ça et plus. Il y a la truculence, la violence, l'alcool, le grotesque. C'est très, très drôle. Et ça se passe ici, en Lorraine. C'est Mobilette, de Frédéric Ploussard, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Mm-hmm. Qui est vraiment un grand choc, une découverte. C'est à la fois un peu comme Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, qui était le prix Goncourt 2018, comme vous le savez, pour le côté jeunesse désœuvré du Texas lorrain. Mais c'est aussi proche de John Kennedy Toole, pour toutes les raisons que je viens de dire, cette espèce de
la conjuration des invisibles,
surréalisme, oui, ouais. Et qui était aussi un premier roman posthume. Ouais. Mais là, c'est pas posthume. Hein. Frédéric Ploussard va très bien. Voilà. Quand on lit un premier roman, on cherche un écrivain et il est là sur 400 pages.
Le titre, tu le rappelles ?
Mobilette de Frédéric Ploussard
aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et enfin, le conseil de Jean-Claude.
Alors c'est aussi un premier livre, puisque Étienne Mansour avait jamais publié, en tout cas sous ce nom-là. Ça s'appelle Convoyeur de la mort, c'est aux éditions Équateur. Le procès des commandos de la mort du 13 novembre 2015 vient de démarrer. C'est une très longue enquête de 4 ans qu'a fait cet auteur, qui est très impressionnant, qui est implacable. Elle est allée s'immerger à Molenbeek, qui était vraiment le vivier du terrorisme islamique à Bruxelles. Et elle s'est mise donc sur les traces du seul rescapé des attentats du 13 novembre dont on a entendu parler cette semaine. C'est un récit fouillé, saisissant, c'est une enquête et un travail littéraire, c'est une introspection, c'est un essai sociologique et philosophique, et je voudrais juste dire, c'est vraiment le livre capital pour comprendre ce qui nous est tombé dessus.
Tu rappelles le titre et l'éditeur ?
Convoyeur de la mort, Étienne Mansour aux Équateurs.
Tous ces conseils très variés, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Olivia de Lamberterie. Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspienjas, Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à l'Opéra de Lorraine à Nancy, à la technique il y avait, je les remercie, Benjamin Perru, Laurent César, Tanguy Le Corneau, Charles Bouticourt, Jean-Michel Manière et chargé de production David Abegassis pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 23 septembre. Je vous attends à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 Boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Merci Nancy, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.